tombé sous artiste ça. Mais oui. Oui. Taïe Banda. Ah ah. Avec Grenette Désir. Oui. Et me connaît définitivement. Ou connaît ou même c'est un bâtonnet la caille qui veut sur. Renette Désir, c'est Renette Désir définitivement qui peut aller mener les phénomènes cabrettes et en bâtonnet la cala. Donc, on connaît cause ça, jeudi dimanche, pas vrai? Dimanche, qui ça? Nous gagnons et dimanche en 21 et dimanche 21 juin et 2020. Et nous venons jouer, nous, c'est grâce à WMFO 91,5 FM. Nous venons jouer, nous, c'est Yvon Lamour qui est des micros. Et nous disons que nous toujours avancer, nous plus près et date pour nous venir avec la cousine Audelaine. Donc, et dans cette question de formalité, nous avons rempli pour nous amener avec côté tranche pour l'IA. Donc, si vous faites capter, nous disons bonsoir. Et donc, en bâtonnet de la caille, depuis dimanche arrivé, depuis 6h, jour 8h du soir, ça nous fait nous porter plusieurs causes pour vous qui ont rapport avec l'histoire, nous, qui n'ont pas à part. Ils sont avec littérature, nous, avec culture, nous, musique, nous, etc. Donc, depuis quelques temps, nous, pratiquement, APC lit quelques œuvres pour vous. Peut-être, vous même qu'à lire déjà. Mais nous pensons, si nous, peut-être, bah, ou chance pour capable tendre nous même qu'à lire, et ça capable pour faire gain goût à regarder. Donc, sous génération, nous, et on est sûr que vous capable content de parler de, Justin Lérisson. Justin Lérisson, nous parlait de lui tout en nous essayant qui est lié, c'est on est monsieur qui a écrit hymne national noir et ça nous connaît dit pour le drapeau, pour la patrie, qui va comme ça pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Moi n'appelle là nous qu'on chante ça qui une version française, mais c'est Justin Lérisson qui a écrit. Mais Justin Lérisson, c'est on est tout qui marqué époque lui. Il marqué époque lui en pile par qui j'ai marqué époque là, c'est parce que justement monsieur mourit très bonheur dans zone 35 ans, avant ça, monsieur mourit, il était gagné, il mourit. Mais il écrit deux œuvres qui sont importantes, sans compter deux œuvres qui sont importantes, que ça n'a plus pour la famille des petites cailles. Et puis, il y a une autre œuvre qui est les zones chez sa nénène. Et donc, si vous même vous suivez nous dans toutes les émissions, c'est-à-dire vous suivez nous ici, dans un bâtonnet la caille, sous WMFO 91,5 FM. www.wmfo.org. Donc, si vous suivez nous sur ça, et pour suivre nous sur un forum Caraïbe, dans 98.3 FM, www.wzbc.org. Donc, vous connaissez que, vous attendez que nous y présentez toutes les œuvres. Ça, en fait, nous finissons avec Zunche Sanenen et sous un forum Caraïbe. Donc, n'a pas avancé, n'a fait pour nous finir avec la famille des petites cailles. Donc, monsieur, à cause que les deux œuvres, ça a marqué l'empile. Et puis, monsieur, dans l'âge, ça, monsieur qui est en train de faire cours, il passe plusieurs carrières, journaliste, il était professeur d'école, et puis, il écrit des œuvres, ça a commencé au dos, et qui marquait littérature pas noire. Et donc, c'est ça que nous faisons, nous, ça, comme on connaît, nous avons un penchant pour littérature, non seulement formation, non. Et l'école, formation nous, professionnelle nous, dans la littérature, donc nous aimons ça, et puis goût personnel nous tout, nous aimons la littérature, nous aimons lire, depuis on bagaille écrit nous aimons, mais particulièrement nous aimons lire littérature, et nous lire toute littérature haïtienne, et puis littérature de l'autre côté, livre de l'autre côté. Donc, nous pensons, si nous faisons ça, l'APCA intéressé ou après intéressé là-dedans. Donc, et Nabdi, et nous potez, écrit et lit deux ou trois chapitres dans la famille et des petites cailles, et puis tout, et n'a pas continué de lire Compé Général Soleil pour vous, traduction. Et puis tout, n'a pas fait lire, continuer de prendre quelques chapitres tout, sous livre I Know Why the Caged Bird Sings. I Know Why the Caged Bird Sings. Moi, je connais pour qui ça oiseau qui n'a qu'à loge là à chanter. À titre travail, Zermatt Scott. Et donc, nous avons noté 12 ans, mais 24, c'est haïtien, il vient ici au niveau secondaire, et puis pendant le temps dans l'école, ça y est, il fait le travail, et Maya Angelou, il développe goût pour lui, et puis tout il vient d'appeler plus pour lui, et puis il vient grand, pendant le grand monde qu'on est là, et il fait traduction, travail ça, hein, et donc et nous gagnons deux trois jours à porter pour. Donc restez avec nous là puis on va aller parce que et n'a pas avec vous jour et 8 du soir et téléphone là c'est 617 699 95 40 ou capable d'utiliser ça pour envoyer un texte pour nous ou capable d'envoyer un email pour nous dans yglamour@yahoo.com. Donc nous allons passer deux heures de temps bien en forme. Par aller comme moi je n'a profité saluer qui est n'a saluer moun et Pario n'a pas n'a saluer moun et Côte d'Ivoire et cap côté nous n'a saluer moun Sainte-Lucie dans Port Sainte-Lucie en bas dans Floride n'a saluer moun qui dans Zile Sainte-Lucie dans Caraïbes là et qui voisin nous mais pas tout peut passer ça non mais c'est voisin nous dans Caraïbes là et puis n'a saluer moun New Jersey n'a saluer moun New York yo cap côté nous n'a saluer qui côté encore n'a saluer moun Cambridge yo moun Somerville yo n'a saluer moun Medford yo normalement n'a saluer moun Malden yo moun Everett yo hein et qui est encore n'a saluer moun Arlington yo moun Lane yo moun Chelsea yo et puis moun River yo n'a saluer nous toutes pour nous dire nous rester là à parler à nous checker avec et comme on connaît toujours gagner un artiste qui accompagne nous nous fait découvrir et renaître désir Nathalie Banda mais comment il est encore renaître désir Nathalie Banda et puis n'a pas vu nous tout à l'heure avec et travail modération
Viens avec toi, moi je fais un rêve, un rêve pour Haïti. Moi tout est loin, les boîtes, tout plein de protéger.
Ah oui, Renette, définitivement, chanté à bien maté, pas d'ailleurs. Nous essayons de checker avec texte là qui te dit malgré cette indifférence, malgré ce détachement absolu des affaires haïtiennes, on trouva le moyen de penser à lui, à Eliezer Pisita, qui cependant ne pensait plus à personne et ne vivait que pour sa femme et ses deux enfants dont il attendait impatiemment le retour. Donc il reçut un matin la visite d'un adjoint qui lui remit un des la présente reçue. Il eut beau dire et qu'on s'était trompé d'adresse, l'officier militaire lui fit comprendre avec un certain éclat qu'il n'y avait nullement erreur et son chef, en lui confiant le pli, n'avait pas manqué de lui fournir des indications très précises sur M. Eliezer et sur la situation et l'architecture de sa maison. Donc c'était grâce à ces indications que que sans se renseigner de nouveau auprès de personne, il avait pu se rendre directement chez Petite Caille. Donc sa conclusion fut brève. C'est bien vous, monsieur, dépêchez-vous, général Lapral sorti, oui. Avec une légère irritation, Petite Caille lui répondit: vous direz à votre chef que je n'ai rien de commun avec l'autorité. S'il a une communication à me faire, qu'il daigne se déplacer ou qu'il la consigne dans une lettre. L'officier partit sans le saluer, mais en disant simplement: c'est bon. Ah ben, ou à marcher là où pas connaît. Ou bien vous marchez là où pas connaît. Deux heures après, la maison fut cernée étroitement, puis envahie brusquement par un détachement. Petite Caille était en négligé, nu-tête, sans faux-col, sans paletot et en pantoufles. Arrêté, il essaya de protester. Violemment, on l'entraîna au dehors. Malgré les cris affolés de sa femme, il ne put s'habiller décemment qu'à l'hôtel de la place, d'où, après une vigoureuse admonestation, on le conduisit au bureau central entre deux haies de soldats. Il rageait, il pesait, il écumait de colère. pour le démoraliser et le porter à avouer le crime qui lui était reproché, on prétendait qu'il avait un dépôt d'armes chez lui, on le soumit à l'épreuve du Wétenam. On lui posa question sur question, il ne savait quoi répondre. En présence de son ahurissement, on ordonna de le jeter dans le trou terre, grande cave ténébreuse de notre ancienne trésorerie. Et puis il y resta quelques minutes. Quand il en fut tiré, il était blême et avait la tête couverte et de fils d'araignée. Donc on l'interrogea à nouveau. Il persista toujours dans cette dénégation. On ouvrit alors des caisses de cartouches. On en fit une distribution à la garde et pour que le malheureux n'eût aucun doute sur le sort qui l'attendait. Ces sinistres propos venaient frapper ses oreilles. Pour qui n'a misé comme ça, Aknomnan? Est-ce que tout n'est pas fouillé déjà? Moins d'avis pour nous mettre, pour nous nettoyer ici même. Oui. Bien que Petit Kai ne fût pas de la race des héros, il eut le courage de ne point et s'accuser. Il était innocent. On ne tarda pas à en avoir la preuve. Les perquisitions faites chez lui, avaient été vaines. On avait pu mettre la main, quelle aubaine, que sur un fusil de chasse et un vieux sabre qui, sans doute pour plaider en faveur des sentiments pacifiques de son propriétaire, ne voulut point sortir de son fourreau. Donc l'autorité fut tellement mécontente de ce mince résultat qu'elle eut l'heureuse idée de mettre face à face le dénoncé et le dénonciateur, un nommé Passepartout. Cette confrontation fit éclater l'innocence de Petit Kai. Passepartout, qui n'était pas à son coup d'essai, fut à ce point confondu qu'il ne put s'expliquer. Il avoua finalement qu'il avait commis une erreur. Donc pour s'être mal acquitté de son service, il fut bouclé sur l'heure et broté en prison. Quant à Petit Kai, on se contenta de lui dire « Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, seulement pas ban nou traka, non ?» Retenez cette particularité, Passepartout mourut en 1877 d'une occlusion intestinale. Tous les aliments qu'il prenait lui revenaient par la bouche. Dieu avait voulu lui faire sentir combien sa conduite avait été infecte. Donc, sous le coup d'une profonde indignation, Eliezer rentra chez lui et avant qu'il eût raconté à sa femme les mauvais traitements dont il avait été l'objet sur la route et la scène du bureau central, il fut frappé d'une attaque d'apoplexie. Il montait l'escalier quand, comme une masse, il dégringola et vint s'affaisser sur le parquet. Donc le sang en abondance lui sortait par la bouche et le nez. Effrayé, Véléda crie au secours. Les voisins précipitamment accoururent et tandis que les domestiques en toute hâte vont quérir les médecins, on transporte le malade dans sa chambre et après lui avoir jeté de l'eau à la figure, on lui administra sans difficulté plusieurs curées d'huile d'olive avec du sel. Donc les hommes de l'art ne tardèrent pas à arriver. C'étaient les docteurs et Métaillefer, en Sésamem et Cabaleur, Tipisline. Ah, mais d'un commun accord, ils prièrent tous qui se trouvaient dans la chambre de vider les lieux. Donc, on se retirera un peu mécontent et nos esculapes se mettent aussitôt à la besogne. À tour de rôle, ils tâtent le pouls, auscultent, examinent le visage et la langue. Puis, il passe au diagnostic. C'est une apoplexie cérébrale, dit Métafer. Je crois, moi, que c'est plutôt une apoplexie cérébuleuse, opine Tipicine. Pour moi, confrère, nous nous trouvons en présence d'une congestion cérébrale apoplétiforme, affirme avec arrogance, c'est ça même. Et je ne m'explique pas pour, que vous puissiez vous tromper de cette façon. Docteur Cabaleur intervint. Confrère, je ne puis admettre un tel langage. Si vous continuez sur ce ton, je me retire. Nous devons du respect. Vous nous devez du respect, en tout cas. Pour moi, messieurs, c'est une apoplexie. La discussion s'envenimait et l'on était sur le point d'en venir aux mains quand Velléda apparut, tout en pleurs. « Docteur, de grâce, occupez-vous de mon mari, il se meurt !» Il se heurte et se ture aussitôt, les docteurs se turent aussitôt et commencèrent alors à prodiguer des soins aux malades. Ils l'exposèrent près d'une fenêtre, la tête levée et couverte de compresses d'eau fraîche. Ils lui réchauffèrent les pieds à l'aide des sinapismes. Cela fait, ils demandèrent plumes, encre et papier et rédige. Chacun mettant du sien une très longue ordonnance. Puis ils se retirèrent. Après avoir fourni à Velléda quelques indications sur le mode d'emploi des médicaments prescrits. À peine avaient-ils quitté la maison qu'ils entendirent des cris, puis Sitka avait rendu l'âme, avait rendu le dernier soupir. Pendant sa courte agonie, cet infortuné citoyen n'avait prononcé que ces seuls mots « Ô loi, ô liberté !» Une quinzaine de jours après les funérailles de Petite Caille, les notes d'honoraires se succédèrent les unes aux autres. Elles montèrent et la rondelette somme de $2,000. Donc, est avec nous là, Naval Vin continue à causer à vous. Et puis, Fabien n'a pas essayé plusieurs chapitres dans la famille de Petite Caille. Donc, moi, pour qu'on est là, moi, pensez au film qu'on est qui est qui Eliezer Petite Caille, ou qu'on est qui est qui Velléda Madame Ni, et où tu es rencontré avec Boutneg, et pour que monsieur t'a fait question élection Ni. Donc, on va vous venir rencontrer avec le docteur qui était là, pas aller parce que, justement, n'a pas avancé dans plus fort partie dans Sandarilé, dans l'histoire. Donc, on aurait les honnêtes désirs pour continuer. Chanter Taï Banda pour même capoter nous dans le moment ça.
Après l'Aïtien, y'a aussi à manger. On a une nouvelle à tous côtés. Y'a une campagne nationale qui lance. Pour sauver l'environnement.
Brunette Désir dans Taïe Banda. Donc, une quinzaine de jours après les funérailles de Petite Caille, les notes d'honoraires se succédèrent les unes aux autres. Elles montèrent à la rondelette somme de $2,000. On dirait que messieurs les médecins, c'était quoi? Entendu pour se faire payer en dollars. Velléda refusa d'abord d'acquitter ce compte. Pour elle, ces messieurs n'avaient droit tout au plus qu'à 120 gourdes, soit 30 gourdes à chacun pour leur visite. Ils n'avaient, après tout, rendu qu'une seule visite. Donc, sur la menace d'un procès, pas vrai? Et sur la menace d'un procès, ils avaient envoyé, les médecins avaient envoyé du papier timbré à cette femme. Elle leur offrit 400, puis 600, finalement 800 gourdes. Donc, après un semblant d'hésitation, ils furent par faire bon accueil à la dernière proposition. Donc, entre nous, c'était une bonne affaire, car chacun palpait 200 gourdes. Pour justifier leur conduite, ils soutenaient que les riches doivent payer pour les pauvres. Ils traitaient ceci gratuitement, c'était la moindre des choses qu'ils prissent leur revanche quand le hasard les faisait tomber sur un client sérieux. Donc, ce raisonnement, ma foi, a du bon, à la condition néanmoins que messieurs les médecins tondent leurs clients sans trop les écorcher. Donc, instruits par l'être de la mort de leur père, à l'époque, nous ne marchions pas encore dans la voie du progrès et de la civilisation, puisque nous n'avions pas le câble sous-marin à cette époque. Donc, Étienne Petite Caille et sa sœur Lucine Petite Caille quittèrent la France où ils se trouvaient depuis une quinzaine d'années. Cette triste nouvelle avait particulièrement affecté la jeune fille. Elle venait triste, cette triste nouvelle, c'est ça, elle venait à peine de sortir du couvent des oiseaux et n'avait rien vu encore du Paris qui s'amuse. Donc, nature délicate et impressionnable, elle éprouva une crise qui fit craindre un instant pour sa raison. Quant au jeune homme, son frère, ce douloureux événement vint le surprendre au beau milieu d'une noce carabinée. Il régalait dans un des restaurants de nuit les plus achalandés de Montmartre plusieurs petites femmes très chiques. Il eut un moment de stupéfaction. Pendant quelques secondes, ses yeux se voilèrent. Si passagère que fut cette émotion, l'une de ses compagnes s'en aperçut cependant. « Qu'as-tu, mon gros loup? On dirait que tu pleures. »« Au moins, pas du tout, » dit-il avec un ricanement bête. Comme toutes les coupes étaient presque vides, « Ah mais garçon, » dit-il, « du champagne !» Et de larges libations se firent en l'honneur du défunt. Ah, ces héritiers de parents riches, pour quelques-uns qui pleurent sincèrement leurs parents morts et qui, si ceux-ci pouvaient être rappelés à la vie, n'eussent point hésité à se dépouiller et de leurs propres biens et des biens légués. Combien, hélas, versent de larmes hypocrites, combien devant des cercueils chéris sont plus obsédés par la pensée de ce qu'ils vont recueillir que par la douleur d'avoir été éprouvés par le destin. Je te conterai un de ces jours, par le menu, l'histoire peu édifiante de quelques-uns de ce type. Pour le moment, contente-toi de savoir qu'Étienne Petite Caille, de retour au pays avec sa sœur, porta le deuil paternel, au vu et au su de tout le monde, avec un visage plutôt joyeux que triste. De méchantes langues ont été même jusqu'à dire que ce jeune homme aurait laissé à entendre que son bonhomme de pater avait eu une fin un peu tardive. C'était une charge. Ce que je sais personnellement, c'est qu'il comptait à peine quelques mois à Port-au-Prince que, mécontent de la parcimonie avec laquelle sa mère lui servait de l'argent de poche, il lui fit scène sur scène. La dernière fut très scandaleuse et provoqua le partage de la succession. Donc, sa part en immeuble et en espèces représentait 30 000 piastres. Lucine, sa sœur, en eut autant. Donc, de nos muscadins sans profession, nos oisifs pommadés, et tiré à quatre épingles, eurent appris cet heureux événement, ils se mirent aussitôt en campagne, et quoi? Ils se mirent en campagne et montèrent à l'assaut de la jolie Dot, n'ayant naturellement dans leur avresse que des fils d'araignée. Lucine, et la fille, bien qu'elle eût une éducation très soignée, est très loin d'être jolie. Elle avait une bouche massive et des yeux qui louchaient. C'était secondaire, tout cela, pour messieurs les conquistadores. Ils ne voyaient qu'une chose, les 30 000 piastres à décrocher. Ainsi, se démenèrent-ils comme des diablotins pour pouvoir être admis dans les salons de Madame Véleda Petite Caille. Les uns cultivèrent l'amitié de son fils Étienne, les autres eurent recours aux amis de la jeune fille et aux voisins et aux voisines aussi. N'a pas campé là et puis d'ailleurs comme ça n'a pas pu retourner continuer avec l'histoire et la famille des petites cailles là et à nous checker avec Renette Désir non Taïwanda.
La joie blinde, bien moins, qu'un pas sauté pour l'endemain. Tous ces mots t'ont grandi, y'a pas réjoui, y'a pas dit, y'a merci à l'infini.
Taïwanda, Taïwanda avec Renette Désir, hein, Renette. Et après pratiquement aider nous mener causer correctement dans Taïwanda et puis tout nous a continué avec la famille des petites cailles les plus audacieux profitèrent des moindres rencontres pour lui faire des politesses et des déclarations brûle pour point et puis assiégés de tous côtés mitraillés à chaque pas qu'elle faisait par des œillades enflammées. Elle ne savait encore à qui accorder son cœur. Pourtant, on parlait de l'unité, et pourtant, elle brûlait du plus vif désir de se marier. Par les confidences qu'elle fit à une de ses camarades, on sut dans certains milieux que les prétendants les plus sérieux étaient Silla, Tête Cahiette, et un jeune homme très instruit et plein d'avenir, et Rodolphe Cabatout, fils d'un négociant en déconfiture et courtier marron de profession. Donc, lequel des deux allait triompher, de Silla Tête Cahiette ou de Rodolphe et Cabatout? Quand cette question se posa devant le High Life de l'époque, d'une voix unanime, on se déclara carrément en faveur du dernier. Ces juges mondains justifiaient ainsi leur préférence. Silla est un jeune homme de mérite, mais c'est fort malheureux que son père soit un ancien cabaretier et sa mère une ancienne marchande de salaison. Pour Cababout, ils se contentèrent de cet argument significatif. C'est un jeune homme de famille, en tout cas. C'était tout et c'était assez. Eh bien, mon ami, laisse-moi te glisser au tuyau de l'oreille les renseignements que tonton Golisha m'a fournis précisément sur deux de ceux et de ceux-là qui soutenaient avec le plus et d'acharnement un Cabatout. D'abord, les Volferrières, leur grand-père, était palefrenier du Grand Bonnet. Arrêté plusieurs fois pour vol d'animaux, il reçut, à cause de ses exploits, le sobriquet Tibouric. Leur père fut tour à tour Tanner, Cellier, et dans le voom qui eut lieu ici à la chute de Soulouk, il fut du nombre de ceux qui avaient pris leur part. Donc leur grand-mère était au dire des contemporains une femme très complaisante. Elle eut 10 enfants, mais chacun avait un père différent. Leur mère, cuisinière puis ménagère, est montée plutôt en dernier lieu au grade de Madame Wolferrière. Donc les grands chirés, leur bisaïeul nègre Bambara, grand Caprilata, leur grand-père Ungan, chef de section, commandant de place en Souriché, leur père maître tailleur puis commerçant. Donc leur grand-mère, une Martiniquaise qui, paraît-il, n'avait plutôt jamais su la cause réelle de la destruction des villes de Gomorre et de Sodome. Leur mère, une marchande de pépatate, puis une boutiquière qui, après un placage honnête de 10 ans, est devenue Madame Grand Chiré. Donc, quant aux Kabatoutes, leur histoire est très longue et très mouvementée. Donc, retenons ces simples notes. Leur bisaïeul était un esclave marron, le plus fin voleur de la bande de Bookman. Il donna du fil à retordre à la maréchaussée coloniale. Donc, elle put cependant mettre la main dessus. On lui coupa les oreilles, ensuite le poignet droit. Donc, leur grand-père remplissait les fonctions de majoral au bureau des épaves sous Broyer. Plus tard, on le connut et archer, puis commissaire de police. Quant au père, vous le savez presque déjà, de Stimidor Andouane, il est devenu successivement boutiquier, commerçant, et maintenant, comme il n'a plus de magasin, il est tantôt courtier marron, tantôt encanteur public, entre-temps, teneur de cabaret bongne. Enfin, c'est un cumulard. Donc, noble rejeton de l'arbre généalogique que je viens de te dresser, Rodolphe Kabatout, il n'y a pas de doute, était un jeune homme de famille et comme tel digne d'avoir le pas sur les modestes et intéressants jeunes gens dont le grand péché est d'être fils de sort une telle. Quand pourtant les sorts ne manquent point dans toutes les familles haïtiennes. Aussi, est-ce pour ces sérieuses considérations que Madame Eliezer Petitcaille, l'ancienne tireuse de cartes d'Aquin, accorda à Kabatout pour ne point déchoir la main de sa chère Lucine. C'est ça, on va continuer. Restez là, parlez. Et comme vous causez, maillé, on va checker encore avec Renette Désir nan Taïe Banda. En bâtonne la kaywa koute, c'est grâce à WMFO Medford 91,5 FM. Voyons texte pour moi nan 617 699 95 40. Et puis, disons moi nous kapanons sous W, dit ka kapte nous sous www.wmfo.org. Renate, côté Renate plutôt, Renate Désir, mais Taïe Banda.
National qui lançait tout un bel environnement. Taïe Banda, c'est ma Taïe Banda. La joie, la haine, y'a moins
Taye Vanda, Jérémie Kaptaye Vanda, pour saluer Kaptaye Vanda dans sa solitude maternelle. Véleda, lui, avança adroitement, $3,000, juste de quoi, lui permettre de liquider avant le mariage quelques dettes d'honneur. Mais Kabatout ne parut pas satisfait. Il avait de l'appétit. Il voulut faire un plus fort tirage sur sa belle maman, sous prétexte de commande d'un mobilier tout à fait nouveau. Sous prétexte de commande d'un mobilier tout à fait nouveau. Véleda, vieille rouée, parant le coup de lui dire: ne t'inquiète pas, mon fils, tout est déjà commandé. Quand tout fut prêt pour le sacrifice, c'est-à-dire quand même, Madame Veuve Petite Caille reçue de l'étranger, et le mobilier et le trousseau de ses chers enfants, on procéda au mariage civil. Et le lendemain, en grande pompe, le jeune couple reçut la bénédiction nuptiale à la cathédrale. Ils furent conduits à l'hôtel par Monsieur Grand Format et Madame Asuke. Ce mariage fut un grand événement mondain. L'église était comble d'invités et de curieux, et toute la ville était sur pied pour assister à l'interminable défilé des voitures, des bus et des bogies. La réception eut lieu à Turjo. Elle compte parmi les plus magnifiques qui aient eu lieu dans le pays. Tous les garçons en exercice avaient été réquisitionnés pour le service de l'immense foule qui avait répondu avec empressement à l'invitation des familles Kabatout et Petite Caille. On ne pouvait compter les bacs de pâté de bonbons, des bouteilles de bière, de portée, etc., de liqueurs diverses et de champagne. Quant au menu, il comportait des plus variés et d'une présentation irréprochable. Tout le monde mangea et but à satiété, et l'on dansa aussi jusqu'au moment où les époux Kabatout pris au congé de leur hôte et pour se rendre à Pétionville où ils passèrent leur lune de miel. Et pendant 3 mois, ce mariage parut bien quoi, bien assorti, mais bientôt, grâce à l'indiscrétion des domestiques, qu'est-ce qui est arrivé? Grâce à la distinction des domestiques, ces gens-là sont sans pitié. Vous savez, on sut que la jeune femme avait des chagrins et pleurait en silence. Kabatout avait quoi? Commencé, en effet, par lui rendre la vie dure. Il s'amusait ferme au dehors. Il entretenait plusieurs maîtresses, fréquentait les maisons de jeu. Il rentrait fort tard chez lui. À la moindre observation, au plus léger reproche de Lucine, il pestait, il rageait, il ne toléra pas qu'elle ouvrit la bouche. Lucine, n'en pouvant plus, fit des confidences à sa mère. Madame Velleda crut de son devoir d'adresser quelques remontrances à son gendre, d'autant que sa fille était enceinte à pleine ceinture. Malheureusement, elle lui fit sur un ton trop aigre, et à un moment où Cabatout était absolument sur son bœuf, elle reçut pour cette intervention un vigoureux coup de bâton. Traînant l'aile, tirant le pied, elle se sauva en maudissant son agresseur et en se promettant de délivrer sa fille de la tyrannie de cette brute. Mais voilà, Lucine aimait ce butor et n'entendait nullement divorcer. « Tant pis pour vous, » lui dit alors sa mère. Cette scène ne ramena pas et Cabatout à des milliers, à des meilleurs sentiments, au contraire. Et elle eut pour effet de le rendre plus irascible. Lucie l'avait en dépôt $5,000 chez un banquier de la place, M. John Risk. À son insu et en contrefaisant sa signature avec adresse, Cabatout draina insensiblement cet argent. Un beau matin, entre deux caresses, il savait caresser sa femme, ce bonhomme. Ce maître homme lui parla d'une association qu'il comptait fonder avec quelques amis. Cette association s'occuperait sur une très large échelle de la culture du coton et denrées absolument en faveur sur les marchés étrangers. Chiffre à l'appui, il fit voir à sa chère moitié la tête, la belle fortune qu'il y avait à gagner. Eh bien, pour la réalisation d'un tel projet, il lui fallait cependant 4000 piastres. Donc, après une légère hésitation, sa femme Lucine lui dit qu'elle lui donnerait un mot pour John Risk qui lui verserait la valeur. À cette proposition, Cabatout pâlit, mais dominant son trouble, « Tu sais, ma petite chatte, puisque John fait bien travailler notre argent, il serait préférable de nous défaire de notre rôle qui ne se trouvant pas dans un quartier commerçant ne nous rapporte pas grand-chose. » Donc, comme il avait beaucoup d'influence sur sa femme, celle-ci, après une moue, se rangea à son avis. La halle fut vendue. À partir de ce moment, Cabatout eut l'air toujours affairé. Ses sorties devinrent plus fréquentes et parfois même dans la semaine, il découchait une ou deux fois. Le prétexte était l'exploitation du coton, mais le fin mot de tout cela, c'était tout uniment l'installation d'une nouvelle maîtresse dans les hauteurs de Thor. Un soir à table, Lucine se hasarda à lui demander des renseignements sur cette entreprise. Et la récolte promet d'être excellente. Seulement, voilà les bras manquent pour la cueillette. Nous avons été obligés d'augmenter les frais pour pouvoir obvier à cet inconvénient. Tu n'as pas l'idée, ma chère. De ce pays, il n'y a que des paresseux. À propos, Gustave, qui a déjeuné une fois ici avec nous, m'a parlé d'une machine merveilleuse à préparer le coton et qui fait réaliser d'énormes bénéfices sur la main-d'œuvre. Donc, je suis absolument d'avis d'en commander une. Ça ne coûte pas bien cher. Prix de revient, commission, frais d'emballage, frais enfin. Tout frais compris, cette machine me reviendra à 5000 piastres. Tu sais, je suis absolument pratique. Nous ne devons pas toucher à l'argent du dépôt, c'est sacré. Nous vendrons nos deux maisons hautes qui ne rapportent que 720 gourdes par an et nous rattraperons joliment avec cette machine, d'autant que le coton est demandé plus que jamais. Lucine, avec une souriante naïveté, se laissa prendre, hélas, à l'engrenage de cette fameuse machine qui, ai-je besoin de te le dire, n'a jamais été commandée, puisque d'ailleurs l'exploitation cotonnière ne marchait à merveille que dans l'imagination du sieur Cabatout. Donc la malheureuse femme ne commença alors à voir clair dans le jeu de son coquin de mari que quand celui-ci vint un jour avec l'aplomb le plus imperturbable lui parler de l'impérieuse nécessité qu'il avait de vendre la seule maison qui jusqu'alors avait été épargnée, la coquette villa qu'ils habitaient à Turgot. Lucie ne résiste, Cabatout s'emporte. Pour la première fois, elle ose dire « jamais, jamais ». « Il le faut pourtant », réplique son mari. « Il le faut, j'ai pris déjà de l'argent sur cette maison. Et du reste, j'ai formellement engagé ma parole d'honneur. » « Pitié, Lucine résiste. « Jamais, jamais !» Cabatout, furieux, lui lâcha un coup de pierre au bas-ventre. Cette brutalité inqualifiable causa un malheur irréparable. Lucine fit un accouchement prématuré. Malgré l'habileté du docteur Métail et Fer, qui, pour essayer de la sauver, avait recouru à l'emploi du forceps, elle trépassa dans une crise éclatique. Peu après les funérailles, Cabatout, que notre justice devrait prendre au collet et traîner sur la sellette du crime, eh bien, Cabatout vendit subrepticement les meubles, l'argenterie, le linge et les bijoux de la défunte. Il fit de rares apparitions au bord de mer, puis disparut. D'aucuns disent qu'il s'occupe de coupes de bois à la gonave. Pour d'autres, il fait un commerce de peaux et de bestiaux sur les frontières. Il aura, comment dit, une mauvaise fin, ce brigand. Et Étienne, petite caille, assurément, tu dois être anxieux d'avoir de ces nouvelles. N'a pas vint à l'heure pour nous essayer de répondre à une question ça avec Justin Lérisson dans la famille des petites cailles. Mais non. À nous checker avec qui a suivi. Mais Renette désire dans taille banda pays moi.
La joie blinde dans mon cœur. Que ma santé pour l'endemain. Tout ce monde a grandi. Y a pas réjoui. Y a pas dit yon merci.
Chanter Taïe Banda avec Renette Désir. Il y a une musique après simplement marcher derrière nous pendant la paix ici, ouais. Et fin peut-être semaine prochaine, définitivement, fini avec la famille des petites cailles. Hein? Et on aura un chapitre encore pour nous. Étienne, petite caille, assurément, tu dois être anxieux d'avoir de ces nouvelles. Eh bien, mon ami, tandis que ses malheurs s'abattaient sur sa famille, tandis que Kabatout battait sa mère, rossait sa sœur, la ruinait et finalement la tuait, ce gentleman était à ses aventures galantes, au riz et au jeu. Il papillonnait dans les parterres de Turgeot. Hein? Il flirtait dans les salons chics de la ville. Bien des boutons se sont épanouis sous la chaleur de ses baisers. Bien des cœurs saignent encore au cruel souvenir de son infidélité. Pourtant, notre Étienne était bête comme chou. Il avait à peine une instruction primaire. Pendant toutes les quinzaines années qu'il avait passées en France, il n'avait appris, c'est lui qui en fait l'aveu, que l'art photographique. Et comme il avait une assez bonne mémoire, il s'était amusé pendant ses courses à travers Paris à collectionner des bouts de phrases comme celle-ci. C'est épatant. Cela m'est absolument équilatéral ou équidistant. Pas un prix. Lisez Paris au lieu de Paris. Disait prix. Prix, c'est le pays des dieux, etc. Quant à l'argot des faubourgs, il s'en servait à tout propos et hors de tout propos. Le secret de ses succès mondains résidait dans ceci. Il avait de la galette. Il était un jeune homme de famille. Et puis, quant à Banda, il l'était de la tête aux pieds. Il avait une démarche fière et bobusienne. Il avait une démarche fière et bobusienne. Il avait toujours une fleur à la boutonnière. Rarement il saluait, rarement il répondait au salut. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est ce Parisien qui, le premier, a porté ici les pantalons dits suels. Au dire d'un garçon qu'il avait à son service, et qu'il a répété devant moi, ce monsieur qui se faisait habiller à la fois à Londres et à Paris avait 10 redingotes, 8 jaquettes et 6 vestons d'étoffes diverses, mais supérieures, de fastueux gilets. Il avait quoi? Il avait la plus riche collection de cravates dernier cri. Le cabinet où étaient déposés ses souliers avait l'aspect d'un croix, l'aspect d'un petit musée de chaussures. Ils étaient de toutes formes, de toutes couleurs, de toutes peaux, caïmans y compris. Quant à ses chemises et à ses faux cols, le nombre en était incalculable. Donc, un des premiers, il était fait venir une coquette Victoria marque Bende. Son écurie était une curiosité, outre un superbe tireur anglais. Il possédait 3 montures de robes différentes qu'il avait payées 1 millier de gourdes. Toutes ces somptuosités étaient peu de choses à ses yeux, mais dans son imprévoyance, il n'avait jamais pensé à faire travailler son argent. Aussi, ses fonds baissaient jusqu'à chaque jour. Donc, un matin, il reçut la visite de représentants de plusieurs étrangers avec lesquels il était en relation. Il avait plusieurs comptes en souffrance. Poliment, l'homme d'affaires lui apprit qu'il avait mandat de le poursuivre au cas où ses notes ne seraient pas liquidées dans un délai de 3 jours. Donc, Étienne Petite-Caille, qui ne s'attendait point à cette surprise, crut qu'il pouvait se libérer, mais qu'elle ne fut par son étonnement quand, après avoir consulté sa caisse, il constata qu'il n'avait même pas le tiers des valeurs réclamées. Donc, il courut en toute hâte chez Gustave, chez Grand Major, chez Macouchat, ses compagnons de débauche, à qui il avait maintes occasions prêté des sommes assez rondes. Ces messieurs ouvrirent de grands yeux. il semblait même lui dire, dans leur ébahissement, « Ah ah, est-ce que tu te fiches de nous ?» Cependant, le terme du délai arrivait. Étienne essaya d'obtenir un sursis. Sa devaine était malheureusement cordée. Il se heurta à un refus catégorique. Il ne sut pas alors où donner de la tête. Eh bien, informé que le représentant de ses créanciers allait remettre ses comptes à Maître C. Fouquet, il eut une frousse qui l'a mis dans une grande excitation nerveuse. Monsieur Fouquet, qu'il avait maintes fois vu à l'œuvre et qui tout récemment venait de faire écrouer pour dette Monsieur Vidangeau, eh bien, sa femme et ses fils, Monsieur Fouquet, eh bien, était pour lui comme un terrible épouvantail. Donc, il se voyait déjà escorté d'huissiers et de recours. Il se voyait déjà en prison. Donc, et c'est ça, ayant vainement frappé aux bourses des amis et d'anciens obligés, il était sur le point de se résigner bravement à son sort. Quand peut-on dire que c'est une inspiration divine? Quand il pensa à l'usurier et Scanatol Moniche, qui sauve souvent les naufragés de la fortune pour après les replonger dans l'abîme. Donc, sans plus délibérer, il vola chez cet usurier. Eh bien, voilà, les nous tournons. Semaine prochaine, Navadiou, Sacrivé et les airs petites cailles. Rete avec nous là, pas aller. C'est un bâtonnet là qui va coûter n'a pas avec vous jusqu'à 8h du soir, oui. Et c'est grâce à WMFO nous venons vers nous. Nous venons vers nous, nous sommes www.wmfo.org. Et puis, vous êtes capable, si vous êtes en radio, vous êtes capable de nous, sur 91,5 FM, c'est WMFO. Et pas oublier, c'est dans un cas COVID là où il est. Et qui fait peut-être la carte toujours, donc pas oublier pour toujours continuer à suivre et instructions yobaruyo pour capable laver mes mains 20 secondes et avec l'eau chaude et puis avec savon, pas oublier désinfecter car là désinfecter plusieurs côtés et bah utiliser la car là radio laver et puis lorsque sortir dans la rue mettez masque, mettez gants. Pas oublier, et puis, bah, mon nu, distance 6 pieds, et 6 pieds, hein, là où on a la rue, là où on a foule, etc. Donc, si jamais on va aller dans manifestation, yo, pas oublier pour toujours, et puis, distance ça pour pas tomber dans une série de difficultés que nous avons tombé. Donc, nous comptons, ou capable même temps, ou capable chita attendre, nous même capli, et la famille des petites cailles. De toute façon, semaine prochaine, n'a pas fini avec histoire là, et nous souhaitons, ou t'es pour un pile plaisir dans ça. Et nous-mêmes tous, c'est comme on carré nous compte, nous avons plus le plaisir dans checker les œuvres. Mais, et ça c'est le premier tranchant là. Nous parlons, c'est le premier tranchant là. C'est depuis 6 heures nous avons commencé. Donc, tout à l'heure, nous allons entrer dans le deuxième tranchant là. Et dans le deuxième tranchant là, nous allons checker et en compète Général Soleil ensemble avec, moi connais pour qui ça, Caloge, moi connais. Et pour qui ça? Et un oiseau qui n'a qu'à loge là, et senti la forme. Nous parlons de ce travail. Et on nous dit que c'est Zermatt Scott qui fait travail là pour nous. Et donc, en attendant, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait Banda, hein? Taille Banda avec Renette Désir, et puis parler. Rétez là, rétez l'autre plutôt parce que n'a continué toujours.
La joie.
Due to COVID-19, WMFO DJs are pre-recording their shows for broadcast on air. We can still accept phone calls, but the phone line is in voicemail mode. Call 855-915-8255. 9636 and be sure to leave the DJ's name in the voicemail so we can forward it to the correct person. The following program was recorded earlier. Enjoy.